Poursuivons notre voyage en quête des femmes. Nous avons cherché leurs traces dans les archives. Il nous faut les chercher dans l'imprimé et dans les bibliothèques, où elles sont infiniment présentes, à la fois dans les livres qui parlent d'elles, par exemple le roman, j'ai parlé l'autre jour des philosophes, mais si vous ouvrez Balzac, vous trouverez un fourmillement de femmes, les situations de femmes, de mots de femmes. Mais si on veut véritablement entendre leur voix, les mots des femmes, comme dit Mona Ozouf, il faut ouvrir les livres qu'elles ont écrits, feuilleter les journaux que, dès le XVIIIe siècle, elles ont lancés, franchir par conséquent avec elles les obstacles mis si longtemps à leur accès à l'écriture, frontière interdite du savoir et de la création, et également la publication, qui est encore une autre chose. J'y reviendrai un peu plus tard, sur cet accès au savoir si difficile pour les femmes. Mais, d'un mot, quelles ont été les voies de l'écriture pour les femmes dans ce monde interdit? Eh bien, d'abord, la religion et l'imaginaire, les voies mystiques et littéraires, l'oraison, la méditation, la poésie et le roman. Parmi les premières femmes qui écrivent, Sappho, la mystérieuse poétesse grecque qui anime à la fin du 7e siècle à Lesbos un cercle choral où chantent les jeunes filles de la bonne compagnie. Et puis, plus tard, bien plus tard, la religieuse Hildegarde de Bingen, auteur au 12e siècle du Hortus Deliciarum, Marguerite Porrette, et son miroir des âmes simples et anéanties, Catherine de Sienne, la grande Christine de Pisan, dont la cité des dames marque une véritable rupture. Bien d'autres à partir de ce moment-là. Il y a comme deux lieux qui ont été propices à l'écriture, les couvents et les salons, le cloître et la conversation. Au Moyen-Âge, les couvents sont des lieux de lecture, voire d'écriture des femmes. Les religieuses copient les manuscrits et s'approprient parfois le latin interdit, car les femmes n'avaient pas normalement accès au latin. Ces interdits demeurent au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, c'était une période très importante pour l'écriture des femmes et des religieuses. Thérèse d'Avila, la grande mystique, les religieuses de Port-Royal, la bourguignonne Gabrielle Suchon, religieuse défroquée, qui publie au XVIIe siècle un traité d'économie politique très apprécié et souvent cité par les économistes. Preuve que les femmes ne se cantonnent pas à la piété. Dans ce même XVIIe siècle en France, le salon de Madame de Rambouillet est le bastion des précieuses. Dans leur sillage, Mademoiselle de Scudéry écrit d'interminables romans. Le grand Cyrus, par exemple. Et Madame de Lafayette écrit au contraire le plus bref des chefs-d'œuvre, La princesse de Clèves. La voie est désormais ouverte aux femmes qui écrivent, à ces femmes auteurs que le XIXe siècle, misogyne, tentera, mais en vain, de limiter et de contenir. Ces femmes sont souvent d'origine aristocratique, plus ou moins désargentées. Elles tentent parfois, au XIXe du moins, de gagner leur vie de manière honorable, avec la plume ou avec le pinceau. D'autres facteurs incitatifs ont joué pour la production des femmes. Par exemple, l'existence d'un lectorat féminin auquel les femmes auteurs étaient mieux adaptées ou censées l'être. Il y a même certains genres qui paraissent particulièrement pertinents pour les femmes. Les livres de cuisine, les livres de savoir-vivre, la baronne Staff a écrit plusieurs manuels qui sont très intéressants et très amusants en même temps, les livres de pédagogie, la presse de mode, les romans dont les femmes étaient très friandes. George Sand s'adresse la plupart du temps à ses lectrices, même si elle a l'ambition d'écrire pour tous, hommes et femmes. Enfin, le féminisme, sous toutes ses formes, laïque ou chrétien, a été un puissant stimulant, notamment dans le domaine de la presse. Bien entendu, on ne peut pas parler de marée, de raz-de-marée, voire d'invasion, comme le font les gens hostiles à l'écriture des femmes. Il y a eu tout un discours là-dessus qui disait, notamment au XIXe siècle, il n'y a plus que les femmes qui écrivent, alors l'écriture, ça va devenir rien du tout. On peut parler d'une entrée en écriture dans l'imprimé qui se fait, au fond, de plus en plus normale. Est-ce qu'elle est paritaire aujourd'hui ? Je ne sais pas, elle l'est probablement dans certains genres, comme le roman, mais certainement pas dans tous. En sciences humaines, les femmes restent inférieures aux hommes en publication, et évidemment dans le domaine scientifique aussi. En tout cas, on entend désormais bien davantage la voix des femmes, on peut consulter leurs livres, on peut lire leurs propos. Et à côté des livres, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir souvent, il y a quelque chose sur lequel je voudrais m'attarder un petit peu plus parce que je n'aurai pas tellement l'occasion d'y revenir, ce sont les journaux et les revues. Les femmes en sont lectrices, nous le savons, ô combien aujourd'hui, et productrices. Au XIXe siècle, elles lisaient peu les quotidiens, dont le contenu politique s'adresse plutôt aux hommes. Mais elles s'emparaient de ce qu'on appelait à l'époque les rez-de-chaussée, c'est-à-dire le bas des journaux, parce que ces rez-de-chaussée étaient voués au feuilleton. Et Anne-Marie Thiès, par exemple, a fait il y a quelques années une enquête qui s'appelle « Le roman du quotidien, lecture et lecteur à la belle époque », où elle a interrogé, ça fait de ça une vingtaine d'années, les souvenirs des vieilles lectrices. Et ces vieilles lectrices se rappelaient avec grand bonheur comment sous la lampe ou dans leur chambre, elles lisaient à la dérobée les malheurs de la porteuse de pain ou de l'enfant du lavoir. Très souvent, la presse que lisent les femmes, dès le XVIIIe siècle, eh bien, c'est la presse spécialisée, c'est-à-dire la presse de mode. Et cette presse de mode a commencé en Grande-Bretagne et en France dès la fin du XVIIe siècle. Des études ont été consacrées à cela, Caroline Rimbaud, Jean Sgar, par exemple. Au début, cette presse est écrite essentiellement par les hommes, mais elle connaît un très grand développement au XIXe siècle et on voit des femmes qui écrivent. J'en donnerai un exemple. Le journal des demoiselles. Le journal des demoiselles a été étudié par Christine Léger, jeune historienne prématurément disparue, et elle avait consacré à ce sujet une thèse très éclairante. Un journal composé, écrit et même partiellement financé par des femmes. Et que voit-on dans ce journal des demoiselles, destiné aux jeunes filles par conséquent ? Eh bien, on voit des rubriques très éclectiques qui vont de la mode avec des dessins pour savoir comment s'habiller, aux recettes de cuisine, mais avec aussi des récits de voyage et des biographies de femmes illustres et des bons conseils pour devenir à la fois une bonne maîtresse de maison, mais quelquefois aussi une femme émancipée. Ce n'est pas du tout un journal clos que le journal des demoiselles. Par exemple, on voit ce journal des demoiselles qui conseille aux jeunes filles d'apprendre les langues étrangères en leur disant, si vous êtes obligé de travailler plus tard, eh bien, il y a quelque chose que vous pourrez faire, c'est la traduction. Parce que la traduction, c'est bien pour une femme. Sous-entendu, une femme ne pense pas par elle-même, mais elle peut toujours traduire la pensée des autres. Et puis, elle peut faire ce travail chez elle. Et de fait, aujourd'hui encore, beaucoup de travaux de traduction sont faits par des femmes. C'est un petit peu un métier, une occupation de femmes, si l'on peut dire. Alors, au XIXe et au XXe siècle, les magazines féminins ont joué un rôle de plus en plus important. Evelyne Sullereau, la sociologue Evelyne Sullereau, bien connue, a consacré un livre à cela. Et elle montre que les promoteurs cherche surtout à capter des consommatrices potentielles, à guider leurs goûts et leurs achats, mais qu'en même temps, les femmes disent leurs mots et s'introduisent dans ce domaine-là. On pourrait d'ailleurs, Evelyne Sullereau le fait, citer un exemple célèbre. Ben, c'est le journal Marie-Claire. Marie-Claire, dont on a fêté je ne sais quel anniversaire il n'y a pas bien longtemps, a été fondée entre les deux guerres. Et il y a eu à Marie-Claire une rédactrice tout à fait novatrice qui s'appelle Marcelle Auclair. Et Marcelle Auclair a lancé le courrier du cœur, et dans ce courrier du cœur, elle recevait beaucoup de lettres de lectrices, c'était des lectrices qui, au fond, trouvaient une tribune et qui parlaient d'elle et qui parlaient, en termes pudiques la plupart du temps, de leurs problèmes de femmes, de leurs problèmes sentimentaux. Et Marcel Auclair essaie de leur donner des conseils. Et un petit peu avant la guerre, on voit même Marcel Auclair leur donner des conseils en matière de contraception. Et ça, c'est quelque chose, avant 1939, qui est un signe avant-coureur. Ça se retrouvera après la guerre, mais véritablement tout à fait isolé à cette époque-là. Et dans cet exemple, on voit le rôle ambigu des magazines féminins. Ils sont à la fois un système d'aliénation, la mode, les produits de beauté, etc., mais aussi un moyen d'émancipation pour les femmes et quelquefois de maux des femmes. Et puis à côté de tout cela, eh bien, il y a eu les journaux féministes. Laure Adler a consacré sa thèse et un livre à cette presse féministe, à l'aube du féminisme, les premières journalistes, 1830-1850, qui est paru chez Payot en 1979. On pourrait citer également Michel Rio-Sarcey, « La démocratie à l'épreuve des femmes », trois figures critiques du pouvoir, c'est paru chez Albin Michel en 1994, et elle étudie notamment les femmes de 1848. Alors un petit mot de cette presse féministe, cette première presse féministe. Il y a deux moments, 1830, 1832 et 1848. Et on voit que c'est lié à des révolutions. La première poussée est une poussée pour la liberté du corps des femmes. D'ailleurs, le principal hebdomadaire s'appelle « La femme libre ». Et puis la presse de 1848, les journaux s'appellent « L'opinion des femmes »,« La liberté des femmes », d'Eugénie Niboyet, Désiré Gay, Jeanne de Rouen. Et dans ces hebdomadaires, il y a plusieurs traits tout à fait intéressants. D'abord, il y a des revendications des femmes. Et par exemple, des revendications de femmes ouvrières pour l'égalité des salaires et la création de coopératives. Il y a des revendications politiques. Ces femmes étaient pour le droit de vote des femmes. Et puis un autre trait original, c'est que il y a peut-être la première fois une tribune d'électrices, un petit peu ce que fera Marcel Auclair plus tard, et en même temps, les femmes qui écrivent et qui répondent ne donnent pas leur nom, mais uniquement leur prénom. Alors pourquoi cela? Eh bien parce qu'elles refusaient de porter le nom d'un mari, hein, ou d'un père, et qu'elles voulaient se faire reconnaître pour elles-mêmes, et qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens. Si je poursuivais l'histoire de la presse, eh bien la période de la Troisième République serait d'une insondable richesse, et je ne citerai que un journal qui a fait date, c'est la Fronde de Marguerite Durand. La Fronde de Marguerite Durand a été créée à la fin du XIXe siècle. Il a été quotidien, puis hebdomadaire, avant de devenir un mensuel. Et sa caractéristique, c'est qu'il était entièrement rédigé, écrit, dirigé et même composé du point de vue typographique par des femmes. Les femmes les plus connues de l'époque y écrivent, par exemple Colette, que tu penses spécialement féministe, mais qui écrit tout de même dans ce grand journal. C'était donc un journal engagé, engagé pour l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes, mais aussi pour de grandes causes. Par exemple, l'affaire Dreyfus. Pour l'affaire Dreyfus, la journaliste Séverine a voulu couvrir le procès de Rennes et donnait des chroniques régulières au journal. Donc, désormais, le journal entre dans les modes d'expression des femmes et on voit les sources produites par les femmes se multiplier. Alors tout ça, ça veut dire des bibliothèques, des lieux pour l'histoire des femmes. La Bibliothèque nationale et des bibliothèques spécialisées. La Bibliothèque nationale est en quelque sorte la mère de l'histoire des femmes. On y trouve énormément de choses. Et pour nous guider dans ce labyrinthe, on dispose aujourd'hui, depuis très peu de temps, 2004, d'un inventaire sous la direction de Annick Tillier, qui est une bibliothécaire de la BN, et qui s'appelle « Des sources pour l'histoire des femmes, guide ». Annick Tillier, dans ce guide très riche, nous présente les sources imprimées, de la Bibliothèque nationale sur les femmes, mais aussi le département des manuscrits. On voit le fond Simone de Beauvoir, Simone Veil, la philosophe, Hélène Cixous et bien d'autres. Et on trouve également dans ce guide très riche un inventaire des fonds de l'Arsenal où il y a les papiers des comédiennes. C'est à compléter cela par une publication de l'association Mnemosyne sous la direction de Françoise Thébault, Pas d'histoire sans elle. Et puis il y a des bibliothèques spécialisées. Et je terminerai cette promenade par la bibliothèque Marguerite Durand. Elle se trouve 79 rue Nationale à Paris dans le 13e. Cette bibliothèque a été fondée, comme le journal La Fronde dont j'ai parlé, par une féministe du début du 20e siècle, fin 19e, début 20e, Marguerite Durand. Et son histoire est passionnante. Elle a voulu justement faire un lieu pour recueillir les sources des femmes et sur les femmes. Et cette bibliothèque renferme aujourd'hui 40 000 livres, tous consacrés aux femmes ou venant des femmes, des collections de journaux considérables, également des sources d'archives. Par conséquent, on dispose maintenant de quantités de sources d'archives et imprimées, et même avec des guides pour nous introduire dans ce labyrinthe de savoir où l'on voit que désormais la voix des femmes existe et n'est plus seulement un murmure, mais une voix qui chante et qui parle.